Cap Sport, la rediff.
Neuchâtel Xamax FCS renoue avec son glorieux passé. La formation rouge et noir a assuré sa promotion en Super League de football dimanche. Les Xamaxiens retrouveront l'élite 6 ans et demi après la faillite du club. On décrypte ce retour au premier plan dans un instant. Cap Sport va s'arrêter également aujourd'hui sur les playoffs de basketball. La phase la plus excitante de la saison commence demain avec le premier acte des quarts de finale. Le BC Boncourt et Union Neuchâtel tenteront de jouer les pronostics. Analyse des forces en présence en deuxième partie d'émission. Bienvenue dans Cap Sport, football et basketball au programme de du jour. Donc, on va tâter le ballon en compagnie de Mathieu Schaffner. Bonsoir.
Bonsoir Stéphanie.
On allume les projecteurs sur Neuchâtel Xamax FCS. Donc, pour commencer, le club de la Maladière a vécu 2 soirs de fête et c'est pas terminé.
Ah non, ça, les festivités risquent de durer en terre neuchâteloise. Les supporters attendaient ce moment depuis 6 ans et demi. 6 ans et demi et la faillite du club suite à l'ère Boulat Tchagaïev. Ce n'est donc plus qu'un mauvais souvenir. Xamax a été inarrêtable cette saison. Les hommes de Michel Descastel sont promus à 7 journées de la fin de saison, sans même jouer. Une ascension qui a été fêtée dans le canapé dimanche, suite à la défaite de Chafouz face à Rapperswil. Elle a été refêtée le lendemain à Genève, à l'issue du match face à Servette. Mais c'est bien le 22 avril 2018 qui restera inscrit dans les livres d'histoire. Et la grande fête se poursuivra en tout cas jusqu'au 21 mai. C'est la date de la remise du trophée. Ce sera à la Maladière, à l'issue du tout dernier match de la saison.
Une saison donc historique pour les Rouges et Noirs, une saison que vous avez suivie de près, Marcel Neuschwander. Bonsoir.
Bonsoir.
Marcel, avec cette promotion, la page Tchagaïev est définitivement tournée selon vous ?
Eh bien, en réalité, on a le sentiment que la page Tchagaïev a été rapidement tournée. Hein, dès le moment où le Tchétchène a quitté le club, chacun n'avait qu'une envie, à savoir oublier peut-être cette ère un petit peu funeste de l'histoire du club rouge et noir. Elle n'est peut-être un petit peu moins oubliée pour les créanciers de Boulat Tchagaïev, mais ça, c'est une autre affaire. Pour le reste, c'est vrai qu'avec cette promotion, on enterre définitivement cet épisode qui n'aura duré finalement l'ère Tchagaïev que 8 mois, même pas une année. Hein, il faut quand même le signaler. Donc, par contre, depuis 6 ans, eh bien, petit à petit, on progresse, on s'améliore et finalement, on enterre de plus en plus cette fameuse ère Tchagaïev qui est bel et bien, alors on peut le dire cette fois-ci, derrière nous.
Xamax, qui est promu à 7 matchs de la fin de saison, l'effectif était véritablement au-dessus du lot cette saison en Challenge League, un effectif taillé pour la promotion ?
Alors, je dirais qu'il était taillé pour la promotion, mais pas forcément au-dessus du lot. Challenging, ce n'est pas l'effectif qui était au-dessus du lot, c'est l'équipe, tout simplement, la preuve. Hein. Cette équipe qui pourrait même battre le record de points du FC Zurich, qui était de 85, si je ne m'abuse, la saison passée. Un petit retour en arrière également. Je pense au HC Ajoie. Il y a 2 ans, le club Ajoulot a fêté le titre de champion de Ligue Nationale B. Est-ce que c'était l'effectif qui était au-dessus du lot ? Non, c'était tout simplement l'équipe, parce que l'entraîneur Gary Sheehan avait réussi à faire en sorte que la mayonnaise prenne. C'est également le cas pour Michel Descastel. Je ne dirais pas que c'était plus simple pour l'entraîneur neuchâtelois, mais il est vrai que là, il y avait un autre argument, c'est que la majorité des joueurs se connaissaient bien. Donc c'est réellement l'équipe et l'esprit d'équipe par moment. Ça peut faire de grosses différences. Regardez tout simplement aussi en Ligue des Champions ce qui se passe avec Liverpool. Ce n'était pas forcément le favori de la compétition. Eh bien, on pourrait peut-être voir la formation anglaise soulever également le trophée de la Ligue des Champions. Donc il faut différencier peut-être la qualité de l'effectif avec Servette, qui à mes yeux avait une grosse qualité, qui par moment pouvait se montrer beaucoup plus percutant que Neuchâtel Xamax FCS, mais c'était seulement par moment.
Alors on l'entend bien, Marcel, il y a ce côté vestiaire, un vestiaire rouge et noir dans lequel il y a une bande de copains, on l'entend très souvent. Beaucoup ont eu un passé commun au FC Bienne. Il y a les Walter, Dinardo, Corba, Carlen, Saïmenovic, Camber. Célien Fort, c'est clairement l'une des clés de la promotion, ou c'est la clé essentielle de la promotion?
Alors, on pourrait aussi rajouter encore quelques noms, Veloso, Vici, Nuzzolo, Doudin, etc., etc. Alors, ce n'est pas forcément la clé essentielle de la promotion, ça ne suffit pas hein, d'être une bonne bande de copains, de se dire peut-être qu'à la fin des matchs, eh bien, on apprécie encore mieux d'aller boire un verre ensemble, d'aller boire une bière ensemble. Non, ça ne suffit pas, mais indiscutablement, indéniablement, c'est l'une des clés de la promotion, et puis il y a peut-être ce projet, chacun finalement était uni derrière ce projet de faire remonter le plus rapidement possible Neuchâtel Xamax FCS, pas seulement Super League, mais déjà, ne serait-ce que de la deuxième ligue inter à la première ligue. Donc étape par étape, mais chacun finalement était derrière cette idée, derrière ce projet-là. Et puis c'est vrai, ce sont des potes dans la vie. Ils passent même certains des vacances ensemble.
Et puis Marcel, Michel Descastel, dans tout ça, on se souvient qu'il avait fait monter les SR de Léman en Liga en 1999. Quelle est son influence sur cette ascension xamaxienne ?
Oui, alors Michel de Castagne n'a pas fait que monter de l'Aimon Liga en 1999, mais déjà là, c'était un bel exploit. Il a quand même une grosse expérience, il a passablement bourlingué, notamment en Afrique, et on en acquiert l'expérience hein, lorsqu'on va entraîner des clubs africains, des clubs égyptiens, marocains et autres. Michel de Castagne, bien évidemment, qu'il a contribué aussi à cette ascension, il a apporté sa pierre à l'édifice. Quelles sont ses qualités? Eh bien, peut-être, il est malin. J'ai envie de dire que Michel de Castagne est malin. Il sent le football et ce qu'on a souvent constaté au cours de cette saison et aussi de la précédente, c'est que Michel de Castagne, souvent, lorsqu'il faisait rentrer des remplaçants sur le terrain, eh bien, ceux-ci marquaient. Joker gagnant, très souvent. C'est-à-dire qu'il sentait bien le football. Et on a aussi, à l'image, ce match qui a été joué au mois de décembre du côté du stade de la Praille à Genève. Xamax qui perd 2-1. Xamax qui ose, qui prend des risques face à une formation genevoise qui recule parce que l'entraîneur, tout simplement adverse et montrer un tout petit peu plus prudent. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Xamax gagne ce match dans la dernière minute de jeu, 3-2, c'est extraordinaire, c'est magnifique, parce qu'on a pris des risques, parce qu'on a pris les bonnes options stratégiques. Et puis manifestement, Michel de Castagne, c'est aussi un meneur d'hommes, parce que tout simplement, dans son équipe, pour l'instant, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de problème, j'ai envie de dire.
Et puis, il y a également un autre homme-clé de ce renouveau neuchâtelois, c'est le président Christian Bingeli.
Oui, on l'oublie peut-être un peu souvent parce qu'à la base de tout, bien, il faut quand même un président qui ait les bonnes idées. Et je crois qu'il y a la clairvoyance de Christian Bingeli. Sa première idée, déjà, c'était de redonner Neuchâtel, ou plutôt Xamax au Neuchâtelois, ce que n'avait jamais réussi à faire Boulat Chagaïef, hein, ça c'est certain. Alors ça, c'était sa première idée. Il a rassemblé des joueurs autour de lui. Et puis peut-être le deuxième élément qui est important, c'est sa rigueur dans la gestion du club. C'est un chef d'entreprise d'une PME et Christian Bingeli, de ce côté-là, a appliqué les mêmes principes. On ne dépense que ce qu'on a. Et pourtant, ce n'est pas un homme issu du football, issu du sérail, non. C'est un entrepreneur, un gestionnaire, appuyé aussi, il faut le dire, notamment par son fils, qui en matière de marketing excelle. Donc ça, à partir de là que la mayonnaise a pris, sans un président clairvoyant qui voulait aussi s'investir, parce qu'il s'investit, ça c'est sûr, hein, c'est quasi un temps plein d'être président d'un club comme celui-ci. Eh bien, c'est à partir de là, la clairvoyance, la gestion vraiment rigoureuse, à mon avis, ce sont les deux éléments clés qui ont permis à Neuchâtel Xamax de gravir petit à petit les échelons.
Alors, la saison n'est pas encore tout à fait terminée. On va quand même vous poser une petite question d'avenir. Marcel, on pense déjà à cette Super League, forcément. Qu'est-ce que doit débusquer Xamax comme joueur pour véritablement tenir la route dans l'élite ?
Les meilleurs, j'ai envie de dire. Non, c'est un peu facile comme réponse, Mathieu. Non, alors, il est vrai que Neuchâtel Xamax, tout simplement, va aborder la Super League avec un budget modeste. Ça, c'est important à signaler. Donc, ça veut dire que dès le moment où on va engager des joueurs, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut bien réfléchir, savoir qui on veut engager. Pas plus tard que cet après-midi, Michel de Castagne nous disait simplement, tout d'abord, on n'a pas besoin de 50 joueurs. Hein. Pas besoin d'avoir 35, 40 joueurs, des effectifs pléthoriques, comme on les connaît, par exemple, du côté du FC Sion. Non, il disait 20 joueurs plus 3 gardiens, plus éventuellement 2 jeunes. Donc ça fait au total 25 joueurs. Il a une vision aussi très simple du football, hein, Michel de Castagne, c'est-à-dire qu'il veut simplement doubler les postes. Hein, pas besoin d'avoir 5 avant-centres et puis un seul arrière-central. Non, il faut peut-être 2 avant-centres, 2 latérales gauches, etc., etc. Donc doubler les postes. Le premier engagement qui est cette fois-ci, alors certain, c'est celui par exemple du latéral gauche, Willy Le Pogam, le joueur de Servette. Voilà, ça c'est un premier engagement. Il faut ce genre de joueur, essayer d'aller dénicher des joueurs, des bons joueurs qui ne coûtent pas trop cher. Mais évidemment, ça c'est le credo de tous les directeurs techniques, de tous les directeurs sportifs. Mais faut-il encore réussir à les trouver, avoir le nez fin? Ce n'est pas forcément évident. Et je dirais que du côté Xamax, bien, il faut un peu renforcer tous les secteurs, notamment à la pointe de l'attaque. On ne peut pas s'appuyer seulement sur Nutsolo et Carlon. Il faut un ou deux joueurs supplémentaires au centre du terrain également, de la charnière centrale également, hein, parce qu'on est fragile dès le moment où il y a un blessé. Donc c'est vraiment un peu dans tous les secteurs, mais ce qu'il faut savoir quand même, Mathieu, c'est qu'il y a déjà presque 14 joueurs qui sont sous contrat pour la saison prochaine, donc il y a déjà l'ossature de l'équipe qui est bien présente. On ne change pas une équipe qui gagne en quelque sorte, même si en Super League, c'est une autre affaire.
Mais on l'a bien compris, il y aura du travail aussi sur le marché des transferts. Marcel Neuenschwander, merci pour cet éclairage sur la promotion de Xamax. On aura encore largement l'occasion d'en reparler. Tiens d'ailleurs, RTN vous prépare une belle surprise pour la fin de saison. On n'en dit pas plus pour le moment.
Cap Sport, jusqu'à 19h.
On change de ballon pour cette deuxième partie de Cap Sport, place à la sphère orange. C'est demain que commencent les playoffs de Swiss Basketball League. Les quarts de finale, plus exactement, les affiches Fribourg-Puy-Lausanne, Genève-Montet, Lugano-Boncourt et Massagno-Union de Châtel.
Et on vous accueille, Jérémy Pignard, pour en parler. Vous êtes notre spécialiste basketball. Bonsoir.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Et on a aussi pu recueillir les impressions de Randoald Desarzin avant le début de ces séries finales. Deux grands favoris se dégagent pour l'entraîneur jurassien de Puy-Lausanne, c'est bien sûr Fribourg et Genève.
C'est les deux équipes qu'on devrait logiquement retrouver à la fin, quand les effectifs sont... il y a un effectif qui est plus impressionnant que l'autre, c'est l'équipe dont l'effectif est peut-être le moins impressionnant sur le papier qui performe le plus, puisque Fribourg est peut-être moins achalandé que Genève, voire que Neuchâtel, mais la sauce a parfaitement pris du côté fribourgeois, donc c'est eux qui pratiquent actuellement le meilleur basket.
Donc, vraisemblablement, on se dirige vers une finale Fribourg-Genève.
C'est un nouveau championnat, mais c'est vrai que en fonction de la confiance qui a été engrangée pendant la saison et tout, je garde une petite porte ouverte pour Neuchâtel, qui n'a encore pas donné pleine mesure à son effectif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui n'est jamais arrivée pendant la saison, malgré le changement de joueur, malgré le changement de coach. C'est une saison qui a été assez mal embarquée par rapport aux ambitions du club. Mais c'est vrai que les deux équipes les plus régulières ont clairement été Fribourg et Genève.
Fribourg, Genève et éventuellement Union Neuchâtel, est-ce que vous partagez cette analyse, Jérémy Pignard ?
Oui, je crois que Fribourg et Genève, c'est quand même effectivement un cran au-dessus, surtout les Fribourgeois, parce qu'ils ont vraiment un 5 majeur qui est impressionnant, et puis surtout, ils ont une forme de constance dans la performance depuis le début de la saison, ils jouent sur tous les tableaux, que ce soit la SBL Cup, que ce soit la Coupe de Suisse, que ce soit le championnat, ils ont vraiment très peu perdu, ça paraît quand même difficile à arrêter. En tout cas, Fribourg, moi, me semble vraiment un cran au-dessus, même un cran au-dessus de Genève. Lugano, Rando, n'en parle pas spécialement beaucoup parce que c'est l'effectif qui est peut-être un peu plus court en matière de nombre de joueurs que les autres. Et puis ça, à un moment, contre les gros cylindrés dans des séries en 5 matchs, ça peut évidemment peser. Après, Union Neuchâtel, on a tous envie d'y croire. Tout le monde, la plupart des dirigeants du basket suisse nous disent en ce moment, attention, Union Neuchâtel, ça peut être très costaud, gros effectif, il va falloir vraiment se méfier pour les playoffs, ça peut être la surprise. Il y a effectivement un très gros secteur intérieur avec notamment Rakovic, Boulian, Anderson, Ballard. Maintenant, il y a énormément d'inconstance depuis le début de la saison. Peu de stabilité, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de départs et ça peine à confirmer sa vraie valeur dans les gros affrontements. Donc maintenant, tout le monde s'accorde à dire qu'elle a le potentiel, mais il faudra vraiment le montrer à partir de maintenant, à partir de ces playoffs, parce que jusque-là, on l'a senti, on a eu des petits frémissements, mais on ne l'a pas vu. Et puis attention, parce qu'il joue quand même Massagno, c'est pas rien. Moi, je suis assez séduit par le travail des Tessinois, de la deuxième équipe du Tessin cette saison. Et surtout, ils ont un très gros secteur intérieur aussi. Donc, ça va être un choc des grands sous le panier dans ce quart de finale-là. Il y a danger. Et d'ailleurs, Massagno a battu Union Neuchâtel sur le dernier match juste avant. Et ce n'était pas un match anodin, pas pour du beurre, parce que c'est quand même la 5e ou la 4e place. Donc, l'avantage du parquet qui se jouait.
Union Neuchâtel qui a peut-être une arme fatale dans ses rangs, Niksa Bafchevich, le coach qui connaît le succès, 3 titres lors des 2 dernières saisons avec Montet, ça peut porter le club neuchâtelois en play-off, c'est la question qu'on a posée à Randoald Desarzin.
Ça peut, mais en même temps on n'a pas vu de grande révolution depuis son arrivée. Il y avait un titre de votre collègue, le nouveliste, que je trouvais assez bien, trop fort pour les petits, trop petit pour les forts. J'espère pour les unionistes et pour notamment le président Siviero, avec tous les efforts qu'il fait, que ça soit contredit pendant ces playoffs. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, vous regardez, Neuchâtel n'a jamais réussi à accrocher une des équipes du top 4.
Et le fait de s'être fait justement sauter sur la ligne par Massagno pour la 4e place du championnat régulier, moralement, ça peut influer sur ces playoffs ?
Ça peut, mais en même temps, je pense que Rubi Gubitosa, le coach de Massagno, n'est pas petit bras quand il dit Neuchâtel reste le favori. Massagno fait une très belle saison. Massagno s'est également donné les moyens de faire une belle saison, notamment avec l'importance de l'arrivée de Jules Haut. Mais c'est vrai qu'on s'attendrait, il n'y aurait pas de véritable surprise si Neuchâtel passait ce quart de finale qui, à mon avis, est le plus serré de toute la série.
Fribourg, Genève, Union, on a un trio qui semble légèrement se détacher. Il y a un autre outsider dans ces playoffs ?
Peut-être Lugano, parce que sur les quelques matchs où on les a vus cette saison, ils ont quand même été capables de grosses performances. C'est une énorme armada offensive. C'est surtout un effectif qui a assez peu bougé à la dernière intersaison. Il y a un coach qui est très fort aussi avec Petit. Et puis, c'est une équipe qui se connaît bien. Donc, ça tourne. Il y a vraiment des automatismes et du beau jeu dans cette équipe de Lugano. On les voit un petit peu plus courts en termes d'effectifs, comme on les a dit. C'est peut-être ce qui peut pêcher. Défensivement, ils sont un peu moins costauds qu'offensivement. Mais pourquoi pas? Ils ont, même si c'est le BC Boncourt qu'on aime beaucoup, ils ont quand même aussi un tirage qui est favorable pour eux sur le papier. Donc s'ils vont en demi-finale, Lugano peut quand même clairement être dangereuse et ça promet un gros affrontement pour l'équipe qui jouera Lugano derrière. Il y a vraiment rien de fait.
Allez, donc peut-être une petite piécette à placer sur Lugano pour Rando Aldesarzin. La piécette, elle est plutôt à placer du côté de Monté.
Monté, à mon avis, qui souffle le chaud et le froid. On a surtout parlé des déboires du club. Mais voilà, on a des joueurs actuellement qui savent pourquoi ils se battent. Hein. Ils se battent peut-être plus pour leur salaire du dernier mois. Mais voilà, ils sont là, ils répondent présent. Ça reste, malgré les départs, une très 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 belle équipe, capable de battre n'importe qui à n'importe quel moment. Donc c'est vrai que Genève n'a pas gagné sa série d'avance.
Quand on est champion en titre, qu'on arrive dans des playoffs, ça peut donner une assurance supplémentaire ?
Ah, je suis pas certain, parce que c'est vraiment une équipe qui a été totalement remaniée. Si vous prenez l'effectif qui était champion suisse, d'ailleurs, Puy-Lausanne, en tout début de saison, quand on a battu Monté, les gens parlaient de Puy-Lausanne qui avait battu le champion suisse. Je tenais déjà à relativiser la chose. Et puis, regardez la situation. Monté finit 7e, Puy-Lausanne finit 8e à un match près. La dernière confrontation entre les deux équipes, puis Lausanne bat Monté d'une quinzaine de points. Donc c'est la vérité d'un jour et c'est la vérité de deux championnats complètement différents pour les deux équipes.
Et avec tout ça, on n'a pas encore parlé du BC Boncourt, un BCB qui est dans le haut de ses objectifs avec un 6e rang et une place en play-off. Alors Jérémy, comment est-ce que vous expliquez cette belle saison du club Ajoulot ?
J'ai presque envie d'expliquer la belle saison du club Ajoulot, premièrement aussi par la très mauvaise saison de l'année dernière. C'est-à-dire que l'an dernier, ils ont eu tous les pépins possibles sur une saison, avec, on s'en souvient aussi, ce licenciement surprise des trois joueurs américains en plein milieu de la saison pour un contrôle positif au cannabis. Donc tout ça, ça avait quand même chamboulé l'équipe, l'effectif. Ça s'était un petit peu mal terminé aussi en termes de résultats. Il y avait l'inexpérience avouée d'un coach, Nicolas Perrault, qui vivait sa première saison en Ligue Nationale A à l'époque encore, ça s'appelait comme ça, et qui avait avoué que voilà, il était d'ailleurs, le fait qu'il redevienne entraîneur adjoint, ça montre qu'il s'est dit qu'il avait besoin encore de prendre un peu d'expérience à côté de quelqu'un de plus chevronné que lui. Cette année, on a un petit peu changé tout ça. Il n'y a pas eu de problème déjà au niveau du BC Boncourt. Ils sont seulement arrivés sur la fin de saison avec quelques blessures, mais pas de problème en coulisses. Il y a un entraîneur, Romain Gaspo, qui a quand même déjà aussi assis une certaine expérience. Hein. Il l'avait avec Elfic. Les résultats sont là. Et puis, donc l'entraîneur, moins de problèmes. Et puis, une bonne pioche aussi au niveau des étrangers, parce qu'ils ont tiré deux Américains quand même qui sont assez exceptionnels. Brandon Brown qui illumine le championnat, même si dernièrement, il a eu quelques trous et c'est un peu plus compliqué. Et puis, Amir Williams, dont on parle beaucoup moins que Brandon Brown, est peut-être à tort, parce que les statistiques au rebond défensivement de ce joueur, elles sont absolument impressionnantes. Et aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse. Et ces deux éléments très forts étrangers, on les avait pas forcément l'an dernier, ils rayonnaient pas autant, du moins les étrangers de l'an dernier. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait que Boncourt a réussi à se hisser parmi les six. Et il faut pas aussi oublier qu'en termes de budget, Boncourt ne peut plus non plus se cacher, ne fait pas partie des petits du championnat. Boncourt, c'est le 6e budget. Et d'ailleurs, si on regarde le classement de la saison régulière, à peu de choses près, on est à peu près au classement des budgets. Alors, on va pas dire que ceci égale cela, parce que sinon ça sert plus à rien de regarder les matchs, hein. On prend le classement des budgets en début de saison et puis on fait les classements à la fin, mais ça signifie aussi que Boncourt a aussi passé une étape à ce niveau-là.
Eh bien tiens, vous avez cité deux hommes importants, effectivement, Romain Gaspo l'entraîneur, Brandon Brown le meneur, deux hommes clés, en tout cas on pourrait le penser ainsi, et on a demandé ce qu'en pensait justement Rando Aldesarzin de ces deux hommes clés.
Je pense qu'on ne peut pas juste tenir compte d'une personne, on parle d'un sport collectif. Romain a été fortement décrié lors de sa dernière saison à Elfic. Là, il prouve à tout le monde que c'est bel et bien un coach de basket. Mais c'est sûr qu'ils ont eu le nez creux, puis pas seulement avec le meneur, mais également avec Amir Williams, qui n'est pas un mauvais joueur hein, dans le secteur intérieur. Je pense que, alors il a certes eu des hauts et des bas pendant la saison, mais pour moi, Amir Williams est un des intérieurs les plus dominants du championnat. Et puis, il y a du monde autour. C'est pas comme si c'était une équipe qui était juste composée autour de deux ou trois Américains. En plus, après, avec l'arrivée de Austin Calhoun, c'est un bel effectif. Je pense que c'est un effectif qui est en tout cas à sa place. Et puis, Lugano a du souci à se faire parce que Lugano, Thibaut Petit, le coach, l'a dit, hein, il manque de gaz. Ils ont quand même tiré sur cet organisme toute la saison. On a vu le gros coup de mou qu'ils ont vécu entre le troisième et le quatrième quart-temps face à Fribourg Olympique le week-end passé en finale de la Coupe Suisse. Bon cours a une très belle carte à jouer également.
Cette Red Team, est-ce qu'on doit parler déjà de renouveau dans ses rangs après la dernière saison ratée, ou est-ce que c'est un peu trop tôt de parler de renouveau du côté de Boncourt après moins d'une saison à l'approche des playoffs?
Écoutez, il y a de la stabilité de toute façon à Boncourt. On n'a jamais tiré la sonnette d'alarme parce qu'il y a eu quelques saisons décevantes. C'est un club qui sait que le coach n'est peut-être pas aussi bon ou aussi mauvais que le résultat de son dernier match. On n'a jamais paniqué, on n'a jamais agi dans l'urgence, on n'a jamais limogé pour créer le fameux choc psychologique qui arrive quand même de moins en moins. Là, on en a un exemple sous les yeux avec le Lausanne Sport en foot le week-end passé. Certes, l'adversaire était fort, mais ce que je dis, c'est que voilà, il y a quelque chose qui se fait sur la longueur à Boncourt. D'ailleurs, Boncourt est ni plus ni moins que une des quatre sauf erreur, plus anciennes formations de Ligue à ce jour, ce qui en soi est une performance incroyable dans une région aussi qui peut, en tout cas économiquement, paraître aussi défavorisée et où il est si difficile d'attirer des joueurs.
On arrive donc dans les playoffs, hein, la grande fête du sport en général, mais attention, le basketball peine quand même à développer un véritable allant autour de lui. Noémie a justement voulu tenter d'en savoir un peu plus de ce côté-là. Elle a lancé un coup de fil à Valentin Wegmann, le responsable des compétitions à la Fédération nationale.
Je pense que c'est très difficile de comparer ces deux sports. Donc déjà, ils jouent beaucoup plus de matchs aussi pendant la saison régulière que nous. Et puis, je pense que c'est aussi là-bas qu'un intérêt maintenant qui est grandi pour ces playoffs. Et puis, je pense que c'est un peu pareil. Mais après, de vraiment comparer ces deux sports, à mon avis, c'est peut-être pas tellement possible.
Est-ce que c'est aussi parce qu'en basket, il y a beaucoup de matchs importants déjà dans l'année, avec beaucoup de coupes, la Coupe Suisse, la Coupe de la Ligue. Et puis, ben, là, c'est encore des matchs importants qui arrivent. Et puis, peut-être qu'on perd un peu de matchs précieux, on va dire.
Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup. C'est un phénomène de la société. Je pense aujourd'hui, le public, il y a beaucoup plus de choix, que ce soit à la télé ou avec au niveau des Ligues des Champions, ou donc pendant la semaine, il y a le basket. Donc le public, il peut un peu plus choisir. Là, on a eu la finale de la Coupe Suisse avec beaucoup de monde. Donc on a la Final Four à Montreux. On a également les tours qui sont intéressants au niveau du championnat et des matchs attractifs. Et puis après, c'est clair que le public un peu plus lambda, peut-être il choisirait un peu où il va aller. Mais je pense après, globalement, on a plutôt une tendance positive par rapport aux spectateurs.
Une saison de basket, c'est quand même long. Souvent, il n'y a qu'un seul match par semaine le week-end. Là, pour les playoffs, c'est trois matchs par semaine. Il n'y a pas moyen de couper la poire en deux et d'avoir une saison avec un match en semaine et un match le week-end, ce qui raccourcirait un peu la saison?
C'est des idées qu'on discute, notamment nous en interne, mais aussi également avec les clubs. Il faut savoir, c'est que les matchs pendant la semaine, c'est là où les clubs ils sont aujourd'hui par rapport justement à la concurrence du hockey, mais aussi du foot, surtout international, que ça n'a pas amené un public supplémentaire, même au contraire, que tous les matchs qu'on dispute pendant la semaine, il y a des spectateurs et une influence qui est assez basse en fait. Et puis pour cette raison, nous, je pense, le jour qui marche le mieux, ça reste le samedi, où aujourd'hui, dès qu'il y a des matchs attractifs, notre public y répond présent.
Et on vous rappelle les affiches pour les clubs de l'Arc Jurassien, Massagno Union Neuchâtel et Lugano BC Boncourt. Merci messieurs de m'avoir accompagné dans ce numéro de Cap Sport. Je vous souhaite un excellent week-end.
Pareillement, merci Stéphanie.
Bonne soirée, bon week-end.
Bon week-end sportif. Et puis cette émission, évidemment, vous la retrouvez en podcast sur notre site internet. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle mouture. À bientôt.
Cap Sport.